Il est 6h22, c'est la clôture aujourd'hui des états généraux de l'alimentation. La montagne a-t-elle accouché d'une souris ou bien y a-t-il une réelle évolution en perspective quant à notre façon de manger, d'acheter et de produire? Pour y voir plus clair, nous sommes avec Marie-Hélène Schwab, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargée de recherche agriculture et alimentation à l'IDRI, l'Institut du développement durable des relations internationales. C'est donc un grand chantier présidentiel qui se termine. Pendant 5 mois, les agriculteurs, les industriels de l'agroalimentaire, la distribution, les associations de consommateurs, tout ce petit monde-là a discuté, échangé sur la méthode. D'abord, Marie-Hélène Schwab, sur la forme, votre bilan, il est positif ou négatif ?
Je pense que globalement, les états généraux de l'alimentation ont constitué vraiment un processus intéressant et important. C'était important de discuter de ces questions-là. Et sur la forme, sur le déroulé, à la fois au niveau des ateliers, de la consultation publique, de la composition des gens qui ont participé à la discussion, c'était un processus tout à fait intéressant en lui-même.
Alors, l'un des objectifs affichés, c'était clairement de mettre fin à la guerre des prix, faire en sorte que les agriculteurs soient mieux payés. À l'arrivée, on a quand même l'impression que c'est encore très compliqué.
Effectivement, même si les états généraux de l'alimentation ont permis de renforcer, du moins les conclusions de certains ateliers, ont permis de renforcer dans les grandes lignes le projet agroécologique qui avait été porté par le précédent gouvernement, on s'est éloigné de cet objectif qui primait sur tous les autres objectifs de produire plus. On a plutôt parlé de produire mieux, on a parlé de reconnexion de la transformation dans les filières et au niveau de l'alimentation des consommateurs. Donc tout ça était absolument important. Alors maintenant, on est vraiment au début et il va falloir voir qu'est-ce qui va être mis en œuvre. Donc dans les feuilles de route qui ont été sorties des 14 ateliers, dans les plans filières et dans le projet de loi qui est actuellement qui va être proposé, on va voir qu'est-ce qui effectivement va pouvoir être mis en œuvre et comment le gouvernement va être capable de continuer à accompagner la transformation de ces filières, parce que c'est pas simplement avec une loi qu'on va permettre de transformer efficacement les filières.
Fixer les prix alimentaires pour mieux rémunérer les producteurs, il y a quand même quelques mesures qui sont arrivées sur la table. Lesquelles ?
Oui, alors effectivement, dans le projet de loi, on a cette volonté de relever le seuil de vente à perte. Donc, c'est-à-dire que les distributeurs ne vont plus avoir la possibilité de revendre au même prix ou en dessous du prix qu'elles avaient acheté les produits alimentaires. Donc ça, c'est un signal très fort parce qu'on arrête la guerre des prix, on envoie le bon signal aux consommateurs comme quoi une alimentation de qualité, c'est pas une alimentation à très bas coût. Donc ça, c'est vraiment un premier pas. Les plans filières sont un premier pas, la charte d'engagement qui a été signée par 18 signataires début novembre pour établir une contractualisation basée sur les coûts de production, c'est aussi un bon premier pas.
Mais il y a aussi l'encadrement des promotions, je crois, c'est ça ?
Il y a l'encadrement des promotions, effectivement, on parle de ça dans la loi qui va être proposée pour
avec un plafond,
le seuil
en fait,
de
pour arrêter d'avoir des prix vraiment qui tirent vers le bas tout le temps.
Exactement, ça c'est vraiment un signal très fort, qui est un bon signal qui va être envoyé aux consommateurs, mais c'est pas pour autant que l'augmentation des prix va être répercutée effectivement sur les producteurs.
Ah, vous voulez dire que les agriculteurs ne sont pas forcément gagnants ?
C'est-à-dire que pour l'instant, on a les transformateurs et les distributeurs qui ont signé une charte d'engagement, qui s'engagent à répercuter cette hausse des prix et à mieux répartir la valeur ajoutée tout au long de la filière. Mais c'est une charte d'engagement, donc qui n'est pas forcément
contraignante.
Qui n'est pas contraignante. Et donc, ça dépendra maintenant de la bonne volonté des transformateurs et des distributeurs à répercuter effectivement cette hausse sur les producteurs en amont.
Donc si je comprends bien, le consommateur va payer un peu plus cher, mais l'agriculteur, lui, ne va pas forcément y retrouver son compte.
C'est effectivement un risque. Alors maintenant, disons qu'ils ont signé une charte d'engagement, donc ça les engage, mais ce n'est pas juridiquement contraignant. Donc à voir de quelle manière l'ensemble des acteurs de la filière va respecter cette charte d'engagement.
La loi, par exemple, pourrait être contraignante éventuellement pour fixer ces prix et pour les imposer ?
La loi n'est pas contraignante pour fixer les prix. La loi est contraignante pour le seuil de revente à perte. On n'a pas le droit de revendre les produits en dessous du prix où on les a achetés. Et on doit garder une marge de 10%. Ça, c'est contraignant. Mais les coûts de production, par exemple, sont indexés aujourd'hui sur le marché international. Donc, ça ne fixe pas un coût minimum d'achat à la porte de l'exploitation agricole, si vous voulez.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Marie-Hélène Schwab, pour que les agriculteurs soient enfin rémunérés au juste prix ?
Pour que les agriculteurs soient enfin rémunérés au juste prix, il faut que l'ensemble des acteurs de la filière respectent les engagements qu'ils ont signés début novembre. Et aujourd'hui, on a vraiment des évolutions qui sont intéressantes. On a l'Observatoire de formation des prix et des marges, qui est vraiment une institution intéressante qui publie, qui met plus de transparence sur la formation des prix, sur la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la filière. Donc on a aujourd'hui des institutions qui sont capables de transporter cette information et de mettre cette information plus transparente. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des clés pour la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la filière.
Donc on entend, il y a une évolution, elle est encore lente, mais elle est bien là. Améliorer la qualité aussi de notre alimentation, c'était l'autre objectif affiché de ces états généraux. Mission accomplie là pour vous ?
Alors, il va falloir regarder dans le détail quels sont les plans filières donc, qui ont été sortis par les différentes filières qui devaient rendre leur copie le 10 décembre. Mais c'est vrai que ces plans filières, si jamais elles s'engagent effectivement avec le gouvernement vers cette transformation agroécologique, pour que ces mesures soient mises en œuvre, il va falloir faire plusieurs choses. Donc il y a trois acteurs qui vont avoir un grand rôle, donc les filières elles-mêmes, à continuer à porter leur projet, au-delà de la simple penser en silo filière par filière, parce qu'aujourd'hui, les pratiques agroécologiques nécessitent de produire plus de produits sur une même exploitation agricole. L'État, qui devra prendre des mesures cohérentes pour accompagner ces filières dans la transformation, parce que ce n'est pas une transformation qui sera facile, et notamment prendre des orientations cohérentes au niveau de son positionnement sur ce qu'elle défend sur le commerce international, par exemple.
Ou sur le bio, puisqu'elle avait coupé ou réduite les aides, mais là, a priori, il y aurait un plan pour l'agriculture bio. Et
elle n'avait pas coupé les aides sur la reconversion vers les exploitations agricoles biologiques, mais effectivement, il y avait des aides qui avaient été coupées
des
et ça avait été
réduite.
Donc ça, effectivement, c'est un autre point d'attention sur lequel il va falloir être attentif. Et le troisième acteur dans tout ça, et pas le moindre, c'est évidemment le consommateur.
Vous dites que la qualité dans les aliments, vous dites qu'il y a deux poids, deux mesures entre le produit brut et les produits préparés.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'on trouve des bonnes tomates en supermarché, par contre, les produits préparés, il continue à y avoir des pesticides, des perturbateurs endocriniens, etc.
En fait, c'est très la traçabilité. Quand vous achetez une tomate, vous savez d'où elle vient, vous savez à peu près de la manière dont elle a été cultivée. Par contre, quand vous achetez un plat préparé, un produit très transformé, vous n'avez aucune idée d'où vient l'huile de palme, la farine, le blé qui y ont servi.
Les œufs, etc.
Exactement. Et ça, c'est vraiment un danger, d'autant plus que aujourd'hui, les enquêtes montrent qu'il y a une augmentation de cette consommation de plats préparés. Mais je vous renvoie à une étude qui vient de sortir par WWF et Eco2 qui parle de la capacité pour les ménages de réduire le coût tout en achetant des produits de qualité, notamment en réduisant cette part de l'alimentation transformée.
Manger mieux sans forcément manger plus cher, on a compris. Marie-Hélène Schwab, merci beaucoup, chargée de recherche agriculture et alimentation à l'IDRI. Bonne journée à vous. On poursuit notre 5-7 avec la tablée du petit déjeuner après le journal.